Va être un petit peu la suite de ce que l'on avait vu il y a 15 jours de cela. On avait parlé sur cette expression biblique, le jeûne et prière. Et donc on avait exposé un petit peu le sens, le but, quel est l'intérêt, à quoi ça sert. Et puis on va poursuivre sur cette lancée-là en lisant Ézéchiel 37. Donc du verset 1er au verset 14, si vous avez vos Bibles, Ézéchiel 37. Si vous vous souvenez, nous avions également évoqué le fait que c'est un peu difficile de comprendre pourquoi ça marche, le jeûne et prière. C'est même difficile d'expliquer comment ça marche, mais le fait est que ça marche. C'est biblique, on le trouve dans l'Écriture. Et l'Écriture, d'ailleurs, nous encourage et nous inspire et nous enseigne à également mettre l'accent dessus. Vous vous souvenez que les disciples ont été confrontés à un problème devant un jeune enfant qui allait pas bien. Ils ont prié pour ce jeune enfant, il était possédé, c'était assez particulier, et ils n'ont pas pu chasser le mauvais esprit. Jésus est arrivé, évidemment, Jésus a délivré cet enfant, et les disciples ont été gênés quand même, pour pas dire vexés, au moins gênés. Et ils ont demandé à Jésus, mais comment ça se fait qu'on n'y est pas arrivé, sachant que quelque temps avant, ils y arrivaient aisément. Quelque temps avant, Jésus les avait envoyés deux par deux, avec comme mission le fait d'annoncer le royaume de Dieu, de guérir les malades et de chasser les esprits, les mauvais esprits. Et ça marchait. Et là, ça n'a pas marché. Alors il pose la question, mais comment ça se fait qu'on n'y est pas arrivé ? Et tous les évangiles ne vont pas dans le détail de ce verset, mais c'est au moins noté dans un des évangiles et c'est inspiré, donc c'est biblique. Il est dit ceci, Jésus leur a répondu, cette sorte d'esprit-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Et on retrouvera dans l'Ancien Testament souvent des rois, des prophètes, des hommes de Dieu, des reines, aller dans le jeûne et la prière pour chercher devant Dieu de la force, du soutien et puis une intervention miraculeuse. Alors il me semble qu'il y a quelque chose de réel derrière tout cela que l'on a quelquefois du mal à bien interpréter, bien saisir. Et on avait terminé notre méditation sur ce fameux Ézéchiel 37, quand Ézéchiel va devoir se promener dans cet immense et vaste, que doit-on dire, cimetière, champ de bataille, bref, fosse commune en plein air, chose épouvantable en tous les cas. Nous lisons chapitre 37, verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fait passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Et je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. Quel pouvoir potentiel de vie existait-il dans ces squelettes, dans ces os, séparés, démembrés les uns des autres ? Qu'est-ce qui pouvait rester de vie au-dedans d'eux ? Très honnêtement, moi je dirais rien du tout. Rien du tout. Ézéchiel est un peu plus mesuré. Peut-être qu'il a peur de répondre ceci. Alors il va répondre autrement. Et il va répondre, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai sur vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc. » Et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, « Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. » Ce que voit Ézéchiel a de quoi l'effrayer. C'est une vision, mais on a l'impression que ça devient une réalité, hein, puisqu'il marche tout au travers de ses ossements éparpillés sur le sol. Je crois que ça avait de quoi l'effrayer, au moins peut-être de le décourager certainement. Et c'est une vision que Dieu lui donne, donc c'est la vision de Dieu. Dieu avait une vision très dure, il faut quand même le reconnaître, de l'état du pays. Parce qu'il dira lui-même, ces eaux desséchées, c'est toute la maison d'Israël. Donc la vision qu'il a, elle est épouvantable, elle est véritablement terrible. Mais quelque part, Dieu est réaliste. La réalité, c'était ça. C'est étonnant comme quelquefois, on est face à des problèmes sans nom et on refuse de le voir. C'est la réalité, mais nous, on préfère regarder ailleurs. Dieu voit toujours la réalité, même si elle est douloureuse. Et cette vision, c'est l'histoire d'un peuple qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus de vie, qui n'a plus de vision, qui ne croit plus en rien, qui est totalement défait, qui est totalement brisé. Ce serait quand même terrible que Dieu soit plus terre à terre que nous. Hein. Dites, il me semble que nous, on est terre à terre quand même, non? Jusqu'à preuve du contraire, vos pieds touchent bien par terre. Hein. Donc on est terre à terre, même si on veut décoller. C'est quelquefois difficile. Quelquefois, on imagine que même si tout ce qu'on voit est plutôt sombre et plutôt terrible, c'est pas grave, on va regarder au-dessus et on va avoir un regard spirituel. Plus facile à dire qu'à faire. Le fait est que, quelquefois, Dieu est bien plus terre à terre que nous, tout en étant si spirituel. Il est bien plus terre à terre que nous et il nous montre certaines réalités qu'on refuserait de voir. Je pense que c'est à dessein que Dieu dira à Ézéchiel, tu vas te promener dans ce cimetière-là. À ciel ouvert, tu vas te promener, et vas-y, marche. Moi, j'y aurais pas été. Hein. Moi, j'aurais dit, non, c'est bon, je vois. Hein. Ouais, y a plein d'ossements desséchés par terre. C'est bon, j'ai vu. Hein. Non, mais je veux que tu ailles, que tu marches à l'intérieur. Mais j'ai pas envie de marcher à l'intérieur. Vous imaginez crac. Non, mais c'est sérieux. C'est épouvantable comme vision quand même. Je ne sais pas si c'était une manière de lui faire toucher du doigt, qu'il prenne conscience. D'ailleurs, en général, quand les choses ne nous plaisent pas, on les tient à distance. On les tient à distance. Ça ne me plaît pas, j'aime pas regarder ça, ça ne me plaît pas, ça me décourage, je préfère pas y penser. Ça n'enlève pas la réalité, quelquefois, malheureusement. Et là, on voit bien qu'il fallait se promener. Dans cet immense, je dis cimetière, mais j'aurais peut-être dû dire également champ de bataille, j'ai l'impression que ça ressemble à ça, quoi. Un immense champ de bataille. Ce qu'il y a peut-être de terrible, c'est que ce champ de bataille, c'est un endroit où on semble s'en être allé, sans avoir pris soin de ceux qui sont tombés au champ d'honneur sur ce champ de bataille. On n'a même pas enterré les morts, on les a abandonnés comme ça. Les os sont à l'air libre. C'est cruel, c'est terrible. Ce que je constate aussi, c'est qu'en général, quand on va dans un cimetière, c'est un monde silencieux. Silencieux par défaut, hein, évidemment. Mais je me dis aussi que le silence produit la mort, mais qu'il est lui-même le produit de la mort. C'est-à-dire que la mort induit le silence. On entre dans le silence une fois qu'on est mort, mais quelquefois, malheureusement, le silence, quand rien n'est dit, quand rien n'est fait, ça peut produire la mort. C'est pour ça que Dieu dit à Ézéchiel, il faut que tu parles, il faut que tu prophétises, Il faut que tu dises des choses maintenant. Et ce qui paraît incroyable, c'est comment les paroles d'un homme, mais finalement la parole de Dieu, et c'est ça qui est merveilleux, comment la parole de Dieu est capable de rendre la vie là où il y a le silence et la mort. Et je crois que Dieu, dans sa grâce infinie, est capable de faire des choses encore bien étonnantes et bien surprenantes. Alors il est plus temps de se taire, c'est ce que Dieu peut dire à Ézéchiel, il faut que tu parles. D'ailleurs vous remarquerez que dans un premier temps, Ézéchiel va devoir prophétiser sur ses os, ses squelettes, et dans un deuxième temps, il devra prophétiser en direction de l'esprit. D'abord sur les os, ce qui est humain, et ensuite ce qui vient de Dieu, sur l'esprit. Prophétise et dis à l'esprit, viens esprit des quatre vents, viens et souffle sur ces os qui se sont rassemblés. Ça s'est fait en deux temps. Ça ne s'est pas fait en un seul temps, ça s'est fait en deux temps. Je crois que si l'on veut que la vie reprenne possession des lieux, alors il va falloir parler. Hein. Si on veut qu'autour de nous, la vie reprenne possession, si on veut qu'autour de nous, des hommes et des femmes entendent parler de la vie de Dieu, il va falloir parler à un moment donné, il va falloir le dire. Il va falloir certainement rentrer dans ce lieu-là pour annoncer la vie. Il est plus temps de se taire, il est plus temps de se résigner vaincu. Le peuple est résigné. Nous sommes perdus. Notre espérance est détruite. On n'a plus d'espoir. Ils sont en déportation. Une partie du pays, pas tout, pas toute la nation, mais déjà une partie du pays a été déportée. Et ils souffrent en déportation. Il nous est même dit qu'ils avaient arrêté de chanter. Ils avaient suspendu leur harpe au sol de la contrée. Et ils auraient bien aimé être au pays, mais c'était loin. Ah, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Mais ils sont loin du pays. Et leur cœur est dans le désespoir. Je me dis qu'on peut être dans le malheur, mais pas dans le désespoir quand même. On peut être dans l'épreuve, mais quand même garder confiance. On peut être dans les difficultés, mais ne pas être totalement désespéré. Cet homme, Ézéchiel, c'est un vivant parmi les morts. C'est un vivant qui se promène au milieu de morts. Et vous comprenez bien que c'est une vision et que la réalité, c'est que c'était spirituellement qu'une nation venait de mourir. C'était spirituellement qu'elle n'existait plus, qu'elle était morte. Alors, dans ce vaste cimetière, dites-moi, dans lequel nous vivons, parce que dites-moi, vous ne trouvez pas que le monde ressemble de plus en plus à un cimetière ? À bien y regarder, il n'y a pas trop de, joie, hein. Il n'y a pas trop de bonheur, il n'y a pas trop d'espoir, il n'y a pas trop d'espérance. Il y a des bombes ici, il y a des fous là. Le monde va mal, hein. C'est une réalité, le monde va mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Par rapport à tout cela, on se promène dans ce cimetière, on regarde, on constate, on déprime, on est malheureux, on dit aïe, 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 vivement, vivement la fin. La fin vient, elle vient bientôt, mais en attendant, n'est-il pas possible que Dieu souffle de son esprit encore ? N'est-il pas possible que Dieu envoie son esprit et rende la vie à tous ces morts ? Il est important, il est urgent que tous ceux qui meurent, et qui meurent sans espoir et qui s'en vont en direction de l'enfer, il est urgent que ces gens-là soient sauvés. Il est urgent qu'ils découvrent la grâce et le bonheur d'être délivrés. Alors, vous ne pouvez pas séparer le chapitre 36 du chapitre 37, ils se suivent l'un l'autre. Mais il y a des paroles étonnantes dans ce chapitre 36 parce qu'il y a des promesses qui sont déjà données. Et je vous en lis une. Au chapitre 36 et au verset 35, même au verset 33. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. On l'a chanté tout à l'heure. Et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants, et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Vous vous rendez compte ? Cette terre est devenue comme un jardin d'Éden. Est-il possible que l'on retrouve autour de nous des actions miraculeuses comme cela ? Moi, j'aimerais bien entendre toutes les semaines des miracles de guérison divine. Pas vous ? Oh, peut-être même tous les jours, non ? J'ai peur de me lasser, hein ? Mais bon, ce serait pas mal quand même. Hein ? Et pourquoi Dieu ne le ferait pas ? Et pourquoi ? Parce que si on est dans un monde qui ressemble à un cimetière, l'esprit peut souffler, peut intervenir et peut se manifester avec puissance et faire des choses incroyables. Alors, J'en reviens à cela. Et c'est comme cela qu'on avait terminé la fois dernière, d'ailleurs. Quel potentiel de vie restait-il dans ces eaux desséchées ? Aucun, complètement sec, complètement sec. Il paraît, d'après certains scientifiques, qu'on va refaire vivre les mammouths. Ouais. On a isolé des cellules souches, ADN, etc., avec son plus proche parent, c'est l'éléphant d'Afrique, je crois. Et donc, on veut faire revenir le mammouth. Bon, pourquoi pas ? Maintenant, voilà, ce sera une manipulation de scientifique, de toutes les manières. Mais moi, je préfère me dire que dans des eaux complètement secs, où il n'y a plus de vie, il suffirait qu'il y ait la vie de Dieu et tout change. Hein. Ben oui, il suffirait que Dieu souffle pour que les choses changent. Qu'est-ce que j'arrive à croire encore aujourd'hui ? Jusqu'où est-ce que je suis prêt à espérer ? Et si Dieu me dit, ces eaux pourront-ils revivre ? Et on a tous à l'esprit des cas, des situations, des visages, de personnes en détresse, de personnes malades, incurables, au dernier stade d'une maladie quelconque ou d'une maladie orpheline. On a tous un visage devant les yeux. Jusqu'où je suis prêt à croire que Dieu peut le guérir, que Dieu peut le relever ? Quel potentiel de foi reste-t-il au-dedans de moi pour croire que la vie peut revenir, même si c'est complètement sec, même si l'espérance est détruite, même s'il n'y a plus rien à espérer ? Sur quelle promesse est-ce que je pourrais donc m'appuyer ? Alors j'en ai trouvé une encore dans ce chapitre 36, décidément. Il y a beaucoup de choses dans ce chapitre 36, et il est dit, parce qu'il me semble que c'est ça la chose la plus importante, au chapitre 36 et au verset 19. Je les ai dispersés parmi les nations, parce que quelque part il y avait eu un jugement sur cette nation, et ils ont été répandus en divers pays, et je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Les choses ne vont pas mal parce que Dieu a décidé qu'elles iraient mal. Hein. Les choses vont mal parce qu'on a décidé qu'elles n'iraient pas bien, parce qu'on a décidé qu'elles iraient mal. Parce qu'on n'a pas espéré, compté et laissé la place à Dieu, la place qui lui revenait. Donc, le diable est entré dans la brèche, évidemment. Et puis, un peu plus loin, il est dit au verset 22, « C'est pourquoi, dit à la nation d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » Dieu est en train de leur dire, tout le malheur qui vous est tombé dessus, c'est à cause de vous, mais ce n'est pas qu'à cause de vous. Le pire, c'est que mon nom a été souillé, mon nom a été sali. Et dans le fond, je vais vous rétablir, pas parce que vous le méritez, mais parce que je veux sanctifier mon nom, parce que je veux glorifier mon nom. Alors que Dieu soit béni, on le chantait tout à l'heure, tout est grâce, n'est-ce pas ? Tout est grâce. Vous êtes d'accord avec ça ? On est sauvé par grâce. On peut être guéri par grâce. On peut être délivré par grâce. On peut être renouvelé par grâce. Tout est grâce. On ne mérite rien, mais Dieu veut le faire. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a bien un nom qui n'est pas glorifié sur la terre, c'est le sien. Et s'il y a un nom qui est guère sanctifié, c'est le sien. Et il veut sanctifier et glorifier son nom. Et il veut que sur terre, on se souvienne de sa fidélité et de sa grande puissance. Alors j'en reviens à la vision d'Ézéchiel et je me dis qu'il n'y avait pas de vie. C'était totalement sans vie. Cette vision qu'Ézéchiel regarde, il voit ses eaux complètement desséchées. En fait, ces gens-là, ils ont vécu et ils sont morts. J'ai presque envie de vous dire que la mort, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Parce que normalement, ça devrait nous arriver un jour. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anormal, la mort. Faut faire avec, on vit avec. C'est vivre avec un sentiment de mort qui n'est pas normal. La mort, ce n'est pas anormal. Mais vivre, être en vie et être mort au-dedans, ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Et derrière cette vision, c'est ce que Dieu reproche à ce peuple, ces eaux desséchées, c'est ce peuple d'Israël qui dit « nous n'avons plus d'espoir ». Ils sont vivants, mais ils sont morts. Ils ont l'apparence, ils devraient être vivants, mais au-dedans d'eux, ils sont complètement morts. Ils vivent avec un sentiment de mort, ils ont perdu la vie. ou est-ce qu'ils se sont laissés envahir par la mort? C'est un petit peu des deux, quelquefois d'ailleurs, qui arrive. Et ils étaient nombreux, tellement nombreux. Alors on pourrait se poser la question, mais qui a entraîné ce chaos? Moi, je vois quelqu'un, tout désigné, qui a entraîné ce chaos depuis fort longtemps, c'est le diable. Hein. C'est le diable. Combien de textes dans l'Écriture éveillent notre attention à cela? La Bible dit, dans l'Apocalypse, que la terre va trembler. La terre va trembler, Apocalypse chapitre 12. Pour quelle raison? Eh bien, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à la terre. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. N'est-ce pas une réalité? Ceci réalisant que le diable agit de manière violente encore aujourd'hui. Jésus dira à l'apôtre Pierre, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. » Pour vous cribler comme du froment. « Mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. » Une autre traduction dira, « Satan veut vous ébranler. » Il veut vous perdre, il veut vous écraser littéralement par une violente tentation, une violente épreuve. Quelquefois, on a pris en pleine face une épreuve, mais alors on ne sait pas d'où elle est venue, mais par contre, elle nous a couchés littéralement. On était à moitié mort, on était à moitié cuit. On s'est dit, mais comment une telle chose a pu, comment j'ai pu prendre ça sans le voir venir? Le diable a décidé de vous cribler, mais... Jésus est là, il prie pour ses enfants. Il y a quelque chose d'assez surprenant, il nous est dit dans le livre de Jude qu'à un moment donné, le diable va même contester le corps de Moïse. Que le diable s'attaque aux vivants, on peut le comprendre, mais il va même s'en aller pour réclamer le corps de Moïse. Il est mort, Moïse, Dieu l'a enterré. Même le diable conteste encore après cela. C'est un monument, Moïse, évidemment. Pas n'importe qui. S'il pouvait l'avoir comme un trophée, il l'aurait pris. On a du mal à imaginer jusqu'où peut aller cette violence que le diable manifeste. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le diable, c'est votre ennemi déclaré, hein, votre adversaire déclaré. Hein. Le diable rôde comme un adversaire, comme un lion rugissant, cherchant sa proie. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, il y a des paraboles qui sont apportées les unes après les autres, et l'une d'entre elles dit qu'un homme a semé dans son champ, et pendant la nuit, un ennemi est venu, et il a semé des mauvaises graines. Et quelque temps plus tard, quand tout a poussé, on s'est rendu compte qu'il y avait le bon blé, puis il y avait l'ivraie. Et on a voulu enlever les mauvaises herbes de peur que les bonnes soient étouffées. Et on a dit non, surtout ne faites pas ça, sinon vous allez tout arracher, on attendra la fin. Et on s'est posé la question, mais comment ça se fait qu'il y ait de l'ivraie? Comment ça se fait qu'il y ait des mauvaises graines à cet endroit-là? Et Jésus dira, c'est votre ennemi qui a semé cela. Il nous a dit que le diable vient quand quelqu'un entend l'évangile. Il vient et il essaye immédiatement, dès que quelqu'un entend l'évangile, il essaye de venir et d'enlever cette parole avant qu'elle ne germe. Ennemi redoutable sur le qui-vive à tous les instants. Prêt à faire du tort, prêt à faire du mal. Et puis, n'oubliez pas que c'est un réel persécuteur, encore dans l'Apocalypse. Et ça, c'est une réalité, même si ça remonte à une certaine période de l'Église, mais c'est quelque chose de constant aujourd'hui. Il est dit, c'est une lettre qui est adressée à l'Église de Smyrne, il est dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, la persécution, c'est quelque chose qui est une réalité aussi. Alors, oui, c'est une réalité, l'ennemi est là, c'est le diable qui a entraîné le chaos, mais bien aimé, souvenons-nous de cela, c'est une réalité, d'accord, mais on refuse que cela devienne une fatalité, n'est-ce pas? C'est une réalité, mais non, de grâce, ce n'est pas une fatalité, peut résister, on peut être délivré de ces choses-là. D'ailleurs, il détient un certain pouvoir sur la mort, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, mais béni soit Dieu, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Alléluia. Il est venu détruire les œuvres du diable, et souvenez-vous de cela, votre Dieu, c'est écrit dans l'Évangile de Marc au chapitre 12 et au verset 27, votre Dieu, c'est le Dieu des vivants, c'est pas le Dieu des morts. quand on a confronté Jésus sur un principe de résurrection, les morts ressuscitent-ils, ne ressuscitent-ils pas, Jésus dira, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Alors le problème, finalement, c'est que cette armée, mais n'avait pas de vie. C'était une armée sans vie. C'était une armée qui était inerte, qui était totalement morte. Et puis, il va prophétiser, et il nous est dit qu'après avoir prophétisé, il va se passer quelque chose, puisque tous les eaux vont commencer à se rapprocher, etc. Et ceux qui étaient éparpillés, cette espèce d'ossuaire, totalement éparpillé, avec énormément de morceaux de corps, d'os éparpillés, va se rapprocher et des corps vont être, enfin, on devrait dire, des squelettes, une ossature va reprendre place et tout d'un coup, on va se rendre compte que c'est plus désordonné, mais tout est coordonné et les os se sont rapprochés. C'est incroyable, hein, jusqu'au corps. Vous avez vu la description, d'abord les os, ensuite les nerfs, et puis les muscles, et puis la peau, et tout cela. Finalement, on a retrouvé une armée, comme s'ils venaient de mourir sur le champ d'honneur, c'est-à-dire qu'ils étaient, ils étaient bien en chair, ils étaient là. Il y a quand même quelque chose de surprenant, c'est qu'il nous est dit, je regardais, et voici, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un mouvement qui s'est passé, mais il n'y a pas le souffle, il n'y a pas eu de souffle, il n'y a pas vraiment la vie. Alors, pour nous, c'est la même chose, si quelqu'un est en vie, c'est forcément quelqu'un qui respire, non ? Je me souviens de quelqu'un qui était très âgé, et un jour le cœur a lâché, et on en parlait à quelqu'un qui connaissait cette personne-là, et on lui annonçait le décès. Et tout affolé, cette personne a dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Et l'autre lui a répondu, ben, il a oublié de respirer. Le souffle, ben, terminé. Et c'est sûr que si vous ne respirez pas, si vous inspirez pas, s'il n'y a pas de l'air qui rentre en vous, vous allez mourir, hein. Et le problème du peuple d'Israël, souvent notre problème, c'est qu'on est en vie, apparemment. Mais s'il n'y a pas la vie de Dieu à l'intérieur, vous savez à quoi ça ressemble ? Ça ressemblerait à une armée de corps morts. Elle ne sert à rien. Vous pouvez avoir la plus belle armée du monde, s'ils sont tous morts, ça fera une belle jambe à celui que vous voulez agresser, hein. Ça ne marchera pas, évidemment. Là, regardez. Ces corps sont bien reconstitués, mais ils sont vides. Il n'y a pas la vie en eux. Il n'y a pas la vie. C'est l'Écriture qui nous le dit. On se rend bien compte qu'il leur manque l'essentiel. Il leur manque le souffle de Dieu. Et pour moi, ils sont littéralement inexistants. Une fois que, puisqu'il n'y avait pas d'esprit en eux, une fois que Ézéchiel a constaté ça, et c'est pour ça qu'il a fallu que ça se fasse en deux temps. Parce que vous comprenez bien qu'on peut avoir l'apparence de la piété sans en avoir la force. Et on peut avoir l'apparence de la vie sans en avoir le souffle. C'est ça le problème. Donc il fallait bien arriver à cette constatation. Et une deuxième fois, Dieu va parler à Ézéchiel en lui disant, prophétise à l'esprit et que l'esprit entre en eux et que la vie vienne réellement les animer. C'est exactement le même mot, si vous voulez, qui a été utilisé par Dieu à la création d'Adam et Ève. C'est le même mot. Il nous est dit que Dieu a créé Adam de la poussière de la terre. Dans d'autres passages, dans le livre de Job, dans d'autres passages, il est parlé que l'homme a été fait de la boue, de la glaise, fait de la poussière de la terre. De la terre. Ça, c'est matériel. Mais la Bible dit que Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie et à partir de ce moment-là, il est devenu une âme vivante. Ça veut dire que le corps était bien façonné, l'apparence était bien là, mais il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que l'on se permet de rappeler quand des personnes décèdent et quand on procède à une inhumation, on rappelle aux gens que l'enveloppe est là, mais que la personne n'est plus là. Ça ne sert à rien de prier pour les morts, ça ne sert à rien de s'adresser à un mort en pensant qu'il nous entend. Il n'est plus là, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus de souffle, il n'y a plus de vie. S'il n'y a plus de souffle, la personne n'est plus là. Elle est déjà partie. Et quelque part, Ézéchiel a eu besoin de vivre cette deuxième expérience lui aussi. Alors, j'insisterai là-dessus en réalisant une fois de plus que si notre conscience n'est pas éveillée, notre âme n'a pas de désir, n'a pas d'envie, et quelque part on est un corps mort nous aussi. Il faut que Dieu souffle sur nos cœurs encore. Il faut que Dieu souffle sur nos vies. Parce qu'un corps mort, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il n'est rien et il ne sert à rien. Si je vous disais qu'il n'entend rien, qu'il ne voit rien, qu'il ne pourra pas parler, qu'il ne produira absolument rien, qu'il ne ressentira plus rien, c'est la vérité. Quelqu'un qui est à l'extrémité, qui est dans un triste état de santé, il ressent encore des choses. Il y a de la vie. Il ressent encore des choses. On a souvent dit à des personnes qui sont dans le coma qu'elles pouvaient entendre, qu'elles pouvaient entendre. Elles ne peuvent pas communiquer, absolument pas, mais il y a la vie en eux. Donc il se passe des choses. Mais quand il n'y a plus la vie, frères et sœurs, il y a la vie en nous. Amen. Merci Seigneur, il y a la vie en nous. Il y a le souffle de Dieu. On aurait du souci à se faire s'il n'y avait pas cette vie-là et si Dieu ne soufflait pas encore sur nous. Alors le souffle viendra toujours de Dieu parce que c'est lui le Créateur. Et quand Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, c'est comme s'il lui disait, parle, annonce, proclame, vas-y, ne te tais pas. C'est l'attitude qu'a dû avoir Ézéchiel face à ce défi énorme. J'en reviens, Ali, au commencement. Et Ézéchiel, ses os pourront-ils revivre? Quel potentiel de vie? Quel avenir vois-tu dans ces eaux éparpillées? Rien. Il n'y a aucun avenir. Rien. Sauf que quand Dieu commence à faire quelque chose, on se prend à espérer et on se met à croire. Et tout d'un coup, on se dit, mais c'est incroyable. Il est en train de se passer un miracle. Il est en train de se passer quelque chose. Parce que la Bible dit que quand l'Esprit est arrivé sur ces gens-là, qui étaient couchés encore à terre, verset 10, il nous est dit qu'ils vont tous se lever. Et qu'à partir de ce moment-là, Ézéchiel comprend qu'il a une armée nombreuse, très nombreuse devant lui. On a commencé notre culte en chantant « Dieu a une armée qui se lève ». On a terminé cette partie chant en disant que les ruines reprennent vie. Vous avez tout ça dans Ézéchiel 37. Vous voyez une armée fort nombreuse qui était prête à aller au combat, qui pouvait se battre pour que le nom de l'Éternel soit sanctifié et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors j'en viens évidemment à cette troisième chose qui me paraît la plus importante, c'est qu'il n'avait plus d'espoir, il n'avait plus d'espérance. Quelquefois, je me dis que ce n'est pas la taille du problème qui nous donnera la grandeur de la parole à apporter. Je m'explique. Si j'ai une grippe, si je rencontre quelqu'un qui a une grippe, j'ai juste besoin de lui dire « T'inquiète pas, Dieu va te bénir. » Ça devrait suffire. Si je rencontre quelqu'un qui vient de perdre un être cher dans un accident de voiture, ça vient d'arriver, il faut que je trouve peut-être un verset plus précis, plus profond, du genre « Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Dieu t'aidera. » Dans ces moments cruels et difficiles, si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, quelque chose d'un peu plus conséquent. Ici, je vois quelqu'un qui a dans son entourage quelqu'un qui est en train de mourir d'un cancer, d'une maladie épouvantable. Il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire ? L'Éternel te guérit. Dans les meurtrissures de Christ, il y a la guérison. Bref, on va adapter le texte à la grandeur du problème. Mais je ne crois pas que c'est la grandeur du problème qui doit nous donner le texte, la parole à ce moment-là. Je ne crois pas, parce qu'on prend les choses à l'envers. Il me semble plutôt que c'est en considérant la grandeur, la profondeur, le sens des promesses qu'on est en mesure de saisir et de comprendre le problème. Vous saisissez ? C'est quand Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux, il faut qu'il se passe quelque chose, que Ézéchiel a pris conscience que c'était inespéré. Il n'y avait pas d'espoir, ce n'est pas possible, à moins que Dieu ne fasse quelque chose. Ce n'est pas le problème qui doit réveiller notre foi, ce sont les promesses de Dieu qui doivent encourager notre foi, vous saisissez ? Quelquefois, il faut le reconnaître, ce sont nos difficultés qui nous boostent. Ce sont nos problèmes qui réveillent notre foi. Ce sont nos difficultés qui nous conduiront un peu plus dans la prière, dans le combat, dans la lutte. Mais non, bien-aimés, ce sont les promesses qui nous attirent un peu plus de consécration et de prière et d'engagement. Parce que les promesses sont là, elles nous boostent, elles nous poussent en avant. Ce sont les promesses qui nous permettent d'aller plus loin et qui nous permettent de saisir la taille du problème auquel nous devons faire face. Jésus, mais comment se fait-il qu'on n'a pas pu chasser le mauvais esprit dans le cœur de cet enfant ? Cet esprit-là ne sortira que par le jeûne et la prière. Vous avez remarqué que quand Jésus a été confronté à un problème, quel qu'il soit, il n'a jamais demandé 5 minutes. Non ? Il n'a jamais dit, vous permettez, j'ai besoin de 5 minutes pour me préparer. Jamais. Jamais il n'a dit ça. Il était prêt. Il était prêt. Nous nous sommes confrontés à une difficulté, on prend ça en pleine face et on dit, il va falloir un petit peu de temps pour digérer et puis pour me mettre en marche. Voilà pourquoi Jésus leur dira par le jeûne et la prière, préparez-vous pour être prêt au bon moment. Préparez-vous pour être prêt au bon moment. Préparez-vous pour être d'attaque au bon moment. Préparez-vous pour ne pas être mis KO quand le problème arrive. Préparez-vous, soyez prêts, soyez prêts. Et j'en arrive à cette notion de pas d'espoir. Ça, c'est terrible. Quand je pense, ça n'a rien à voir avec... le texte que l'on partage maintenant, quand je pense à ce que des hommes ont été capables de dire, ce n'était que des hommes, hein. C'était un chinois le premier, Sun Tzu. Il a fait tout un tas de proverbes, bon, très sages. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. Si je me dis que quelqu'un qui n'a pas le message qu'on a, qui n'a pas l'espoir qu'on a, qui n'a pas la vision qu'on a, qui n'a pas le recul que l'on a, est capable de dire des choses comme ça, vous ne croyez pas que nous, on pourrait dire mieux quand même ? Ou au moins autant ? Et mieux, bien évidemment. Alors on pourrait s'appliquer simplement ces textes de l'Écriture, où, et on l'a lu ensemble, versets 12, 13 et 14, « Ainsi parle le Seigneur, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ramènerai dans ce pays. » D'ailleurs, deux fois, ça va être dit, « J'ouvrirai vos sépulcres, je vous ramènerai. » C'était nécessaire, ils avaient besoin de l'entendre et de le réentendre encore. Finalement, c'est sûr que quand Ézéchiel rentre dans ce vaste cimetière ou champ de bataille, ben, y a de quoi être découragé. Hein. Ce n'est pas avec ces morts-là que je vais m'en aller remporter une victoire. Hein. Sauf qu'il s'est passé quelque chose. Dieu est intervenu et tout a changé. Plaise à Dieu que Dieu intervienne encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Que Dieu intervienne encore aujourd'hui et que Dieu fasse de belles et de grandes choses. Alors la conclusion, c'est dans le livre de Joël. On peut les lire ensemble, ces quelques versets. Et on termine avec ça. J'en reviens à l'idée de la prière, évidemment, c'est incontournable. Et à ce temps de jeûne et prière, allez-y, vivez votre expérience dans ce domaine-là. Faites-le comme vous voulez. Appréhendez-le comme vous le souhaitez, mais pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi ne pas vivre de belles expériences dans ce domaine-là ? Pourquoi ne pas découvrir un aspect de ce que la Bible nous entraîne à vivre et à connaître un peu plus de temps, devant sa face, un peu plus de temps dans la prière ? Et si on ne sait pas trop pourquoi ça marcherait mieux comme ça, et comment ça marchera mieux comme ça, on sait que ça marche, on sait que c'est une recommandation, on sait que c'est un conseil, pourquoi ne pas le faire ? Dans le livre de Joël, un petit peu comme si c'était encore une sainte convocation, dans le livre des Nombres, face à une difficulté, on l'avait vu il y a 15 jours, Dieu dira, tu rassembles le peuple, sainte convocation, allez, tout le monde ensemble. Il fallait que tout le monde soit réuni. On a mis 3 jours de prière, et si on se mettait tous ensemble ? Ce serait bien, hein, tous ensemble. De 6h du matin jusqu'à minuit, vous choisissez votre créneau, une demi-heure là, une demi-heure ailleurs, comme vous voulez. Allez, 3 jours, lundi, mardi, mercredi, c'est juste un défi. On peut le faire ensemble, on va... Je crois que si on pousse tous ensemble au même moment, en même temps, au même endroit, la porte, elle va être défoncée. Hein. Elle ne va pas tenir. Ça fait bélier, si vous voulez. Hein. Ça aura plus de poids, hein, évidemment. Plus de poids. Dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 12 et 13. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, et des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Amen. Et enfin, verset 21. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Quand on pense que dans l'Apocalypse, il est dit « malheur à la terre ». Et là, Dieu nous encourage en disant « terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses ». Et un peu plus loin, on va jusqu'au verset 25. « Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leurs richesses, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. » Gloire à Dieu. « Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Gloire à Dieu. « Comme autrefois, les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de moût et d'huile. Je vous... » C'est le verset le plus important pour moi. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. » Si vous ne savez pas c'est quoi toutes ces bêtes, elles se ressemblent. Elles ont tout mangé, elles vous ont tout pris, elles vous ont tout volé. « Je vous remplacerai ces années perdues. Je vous remplacerai ces années que vous ont volé le diable. Je vous remplacerai ces années qu'ont dévoré votre ennemi, votre adversaire, votre persécuteur, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasirez. » On continue verset 26. « Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Amen. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Quel potentiel restait-il dans cette armée de squelettes ? Rien. Rien. À moins que Dieu ne parle. À moins que Dieu n'ait un plan. À moins que Dieu n'ait prévu quelque chose. Eh bien, je crois que Dieu a prévu quelque chose pour nous encore. Amen. Je crois que Dieu a prévu de belles choses encore pour ses enfants. Alors, on va s'accrocher à ces réalités, ces promesses, et on va dire « Amen, viens Seigneur Jésus, et manifeste-toi encore. » Amen. On se lève ensemble et on invoque Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas perdre de vue ta vision et nous voulons que ta vision devienne notre vision. Nous ne voulons pas vivre sans vie, nous ne voulons pas vivre sans souffle, nous ne voulons pas vivre sans espoir, nous ne voulons pas vivre anéantis au-dedans de nous-mêmes, nous ne voulons pas vivre sans regarder vers toi qui est le prince de la vie, qui est le prince de la résurrection, celui qui donne la vie parce que tu as dit que tu serais ainsi. Je prie que tu étends ta main et que tu encourages nos cœurs et nos vies. Je prie que tu étends ta main maintenant sur nos âmes, sur nos vies, sur nos cœurs. S'il te plaît, étends ta main. S'il te plaît, glorifie-toi. Tu connais nos besoins. Ils sont nombreux, mais ta grâce est plus grande encore. Tu connais nos malheurs. Ils sont pesants, mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir encore. Tu connais nos difficultés. Tu connais nos lassitudes. Mais Seigneur, tu as dit que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Alors merci de nous garder. Merci d'encourager ceux de nos bien-aimés qui s'avancent dans une semaine difficile. Tu vas les relever au nom de Jésus aujourd'hui, afin que la semaine ne soit pas difficile. Tu vas leur donner ta grâce ce matin, afin que cette semaine soit totalement transformée et que leur vision change, et que ces corps qui sont là, et qui ont été réunis, qui ont été rassemblés, mais qui n'avaient pas de vie, deviennent une armée, que ces corps deviennent une armée fort nombreuse avec la vie de Dieu au-dedans d'elles. Merci de ce que tu feras. Garde-nous en toi et renouvelle notre espoir, notre espérance. Renouvelle notre courage, renouvelle nos forces, renouvelle la santé au-dedans de nous. Cette santé spirituelle, nous ne voudrions pas que tu deviennes plus terre à terre que nous, mais nous le sommes terre à terre et nous ne regardons pas l'avenir avec confusion ni avec fatalité. Mais la réalité, nous voulons l'affronter en disant « Notre Dieu a tout accompli à la croix et il est vivant ». Et il guérit les malades, et il délivre les désespérés, et il donne la vie. Merci d'étendre ta main, et merci d'accompagner chacun dans ton nom précieux. Amen.